Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du projet Habiter la France de demain. Nous allons évoquer notamment la ville durable. Et pour cela, eh bien, je suis comme d'habitude en compagnie de Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Et avec nous, eh bien, on reçoit déjà quelqu'un qui est presque aussi habitué que Jean-Baptiste Lannes à être avec nous. C'est un autre Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste Butlen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable et à vos côtés, on retrouve Magali Pinon-Lecomte. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes adjointe au sous-directeur de la ville durable et avec vous, je le disais, nous allons parler du projet Habiter la France de demain. C'est parti pour ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors avant de démarrer, on va planter un peu le décor. Vous savez que la ministre de la Cohésion des Territoires et le ministre de la Ville et du Logement, qui était à l'époque Emmanuel Wargon et Julien de Normandie, avaient lancé en février 2020 une nouvelle feuille de route pour la ville durable avec 10 mesures pour atteindre une ville neutre en émissions de CO2 d'ici 2050, avec comme priorité l'accompagnement de tous les territoires. Et le 9 février dernier, Emmanuel Wargon, devenu depuis ministre délégué au logement auprès de Barbara Pompili, chargée donc du logement, on a détaillé le projet Habiter la France de demain qui, un an après, marque une nouvelle étape. Alors Jean-Baptiste Butlen, on va démarrer avec vous. Un an après l'annonce de ce plan Ville durable, où en est-on ?
Alors, comme vous l'avez dit, l'an dernier, en février 2020, nous avons célébré les 10 ans du plan de ville durable et on peut dire que depuis février 2020, l'actualité a été très très riche. En termes de gouvernance, tout d'abord, a été créée une association qui s'appelle France Ville Durable et qui regroupe les collèges des collectivités, de l'État, des entreprises et des experts. Comme un lieu, effectivement, de parangonnage, d'échange en faveur de la ville durable. Par ailleurs, le gouvernement a souhaité accélérer toutes les mesures d'accompagnement des territoires en faveur de l'aménagement durable. On avait déjà eu l'occasion d'en parler entre nous. Il s'agit des ateliers des territoires, des recherches-actions telles que PopSU Territoire ou de la preuve par 7, ou tout simplement du déploiement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Par ailleurs, le ministère en charge du logement et le ministère en charge de l'écologie ont souhaité faire émerger des démonstrateurs de la ville durable. On pense en particulier aux cités fertiles de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, des quartiers plus et moins de l'ADEME pour la sobriété énergétique ou des appels à projets des quartiers d'initiative citoyenne dans les éco-quartiers qui ont d'ailleurs conduit leur 8e campagne tout au long de l'année 2020. Voilà. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont jalonné l'année 2020, avec tout d'abord un forum urbain mondial qui a permis d'évoquer les sujets de développement durable dans la ville à Abu Dhabi. On a également signé le protocole État, Fédération nationale des agences d'Urba lors de leur rencontre annuelle. On a décerné un nouveau grand prix d'urbanisme à Jacqueline Osti, après l'avoir décerné l'an dernier à Monsieur Bouchain, Patrick Bouchain. Et puis, on a évidemment préparé les réformes de 2021, avec notamment les dispositions législatives sur le trait de côte ou sur l'artificialisation des sols, ainsi que les mesures du plan de relance. On a déjà eu l'occasion d'en parler entre nous. Voilà, donc une actualité extrêmement riche entre février 2020 et aujourd'hui.
Emmanuel Wargon, qui est donc ministre délégué au logement auprès de Barbara Pompili, porte désormais ce projet Habiter la France de demain, qui marque une nouvelle étape après la feuille de route de février 2020. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail ce projet Habiter la France de demain ?
Alors, je pense que le détail vous sera évidemment présenté bien mieux que moi par Magali, mon adjointe. Ce que je peux présenter rapidement, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette nouvelle démarche portée par notre ministre Emmanuel Wargon. Incontestablement, le contexte en 2021 est radicalement différent de celui dans lequel on avait élaboré la feuille de route de la ville durable en 2019-2020. Évidemment, le gouvernement a pris la mesure des nouvelles demandes sociétales. Vous vous en souvenez, il y a eu évidemment tout d'abord le mouvement des Gilets jaunes, qui finalement a conduit à repenser le modèle de l'aménagement, cela que le modèle de la France des Trente Glorieuses, qui était très marqué par un étalement urbain avec ses périphéries ou franges urbaines et cette peut-être cette inégalité territoriale a été fortement mise en cause et dénoncé par nos concitoyens. Et évidemment, ça a interpellé le gouvernement. Par ailleurs, il y a eu évidemment la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore complètement, malheureusement, qui a conduit et fait émerger une demande de nos concitoyens en faveur de logements et de quartiers de qualité, qui soient plus grands, avec un espace extérieur, bref, un cadre de vie qui soit agréable, même quand on est confiné, si je puis dire. Et donc, évidemment, ça conduit corollairement à un rejet d'une certaine forme d'habitat très dense, et peut-être ça fait naître un nouveau désir d'habitat pavillonnaire avec jardin, hein, ce qui est un peu contradictoire par rapport précisément à la lutte contre l'étalement urbain qui avait été critiqué dans le mouvement des Gilets jaunes. Et puis enfin, il y a eu effectivement la remise au président de la République des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, avec notamment un volet entier sur le thème « se loger », qui nous encourage à promouvoir une ville qui soit plus sobre, plus compacte, et puis une nouvelle culture, finalement, de l'habitat collectif. Donc, partant, finalement, de l'ensemble de ces attentes sociétales, qui, on le voit, sont complémentaires, mais aussi, sur certains points, contradictoires, la ministre Emmanuelle Wargon a souhaité, finalement, construire une feuille de route qui fasse la synthèse, qui crée un consensus, en repartant, finalement, de grands principes qui fondent l'aménagement durable et qui permettent de faire émerger de nouvelles façons d'habiter la France demain, à toutes les échelles, du logement jusqu'au grand territoire. Donc pour cela, elle a souhaité fonder un nouveau pacte pour la ville, les bâtiments et les territoires durables qui se dessine autour de quatre grands défis dont Magali va vous parler. Je ne fais donc que citer ces défis. Il s'agit d'une part de la sobriété, de la résilience, de l'inclusion et enfin de la production de nos territoires dans la politique du logement et de l'habitat.
Alors justement, comme vient de nous en parler Jean-Baptiste, Magali Pinon-Lecomte, vous allez nous détailler ces quatre défis que vient de citer Jean-Baptiste. Une rencontre avec les acteurs des territoires et les professionnels de l'aménagement a été organisée par la ministre pour incarner ce projet Habiter la France de demain. Quels sont les principaux enseignements qui en sont ressortis ?
Alors, peut-être repartir sur la structuration qui avait été donnée par la ministre au départ, hein, sur son projet Habiter la France de demain, qui, en trois étapes, dans lesquelles nous sommes encore, donc avec une première étape d'idéation pour refonder des principes qui sous-tendent l'aménagement durable, dont vient de parler en partie Jean-Baptiste, avec ses quatre défis, sobriété, résilience, inclusion et production, donc j'y reviendrai. Donc une première phase d'idéation, vraiment, on n'invente rien en fait, hein, c'est bien ça l'idée de la ministre, et notre idée aussi, hein, c'est que tellement de choses existent, et on est tellement sur ces trajectoires depuis longtemps, qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt face à un foisonnement, à des acteurs en fait qui sont déjà engagés. Donc en fait, c'est plutôt refonder, repréciser des principes simples pour pouvoir massifier ensuite, donc j'y viendrai. Donc deuxième étape, donc après l'idéation, la démonstration, pour faire émerger des démonstrateurs qui existent déjà sur les territoires. Donc c'est bien l'idée, on ne part pas d'une table rase. Et puis troisième étape, l'accélération, et c'est, on va dire, finalement, l'objectif principal, hein, c'est de massifier, d'accélérer la transition avec ce qui existe déjà. Mais avant d'accélérer, il faut qu'on rassemble, en fait, pour qu'on donne du sens, qu'on structure, en fait, la démarche. Et donc, le 9 février, nous avons organisé une première rencontre qui est un peu à la fin de l'idéation, de la phase d'idéation, qui est un peu une première étape dans la démonstration avant d'attaquer l'accélération. J'y reviens plus tard. Donc le 9 février, donc on a travaillé avec quatre témoins, quatre experts sur ces quatre défis politiques. Un expert pour chacun des défis. Avec Franck Boutet, qui est architecte ingénieur sur la sobriété, avec Magali Reguetzazit, qui est géographe sur la résilience, très connue sur ce sujet, Judith Ferrando, qui est sociologue, qui a participé à la commission, ça y est, j'ai perdu. la Convention citoyenne pour le climat, merci Jean-Baptiste, et puis Pierre Vels, hein, qui est économiste, hein, qui nous a aidés pour un peu avancer ou regrouper en fait les idées, hein, autour de la production. Donc, je le répète, on ne part pas de rien. Évidemment que ces concepts sont déjà travaillés depuis des années. L'idée, là, c'est bien vraiment faire de structurer, en fait, cette idéation, ces grands principes, d'en tirer, en fait, des concepts simples, hein, pour pouvoir vraiment communiquer de façon, notamment en direction du grand public. Et j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc, assez rapidement, ça sera réducteur, j'en suis désolée, mais on donnera à nos auditeurs le lien vers les replays, pour visionner en fait ces ateliers qui se sont tenus le 9 février et qui ont été vraiment très riches, qui ont duré chacun, donc ils étaient en parallèle, chacun a duré plus d'une heure. Donc, j'encourage les auditeurs à aller écouter en fait ces ateliers pour aller plus en profondeur. Et là, je m'en excuse d'avance, je vais être réductrice, hein, évidemment, puisque c'est des sujets quand même pas simples, hein, c'est quand même compliqué, même si on essaye de faire émerger des principes simples. Donc sur la sobriété, de quoi on a parlé, sur quoi on travaille quand on parle de sobriété pour, non pas pour les individus, mais pour la ville et les territoires, de quoi on parle? On parle évidemment de réduction de la consommation des ressources naturelles, et Jean-Baptiste en parlait notamment, c'est la question de l'artificialisation des sols qui est derrière aujourd'hui, qui est très prégnante, hein, comme question. Il y a la question évidemment de la biodiversité avec l'érosion, de la biodiversité et de construire la ville sur la ville. Donc ça, c'est très important, c'est d'aller vers un urbanisme circulaire. Et ça, c'est aussi des méthodes qu'il faut qu'on développe, et de tenir compte de la nature dans les aménagements, ainsi que en termes de mobilité, de développer une ville de courte distance, avec des territoires à énergie positive ou bas carbone. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille déjà depuis des années, mais en gros, ce sont les grandes lignes sur la sobriété. Donc Franck Boutet, qu'est-ce qu'il a mis en évidence? Il a dit qu'il fallait absolument passer par une remise, relier en fait les lieux et leurs usages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de repenser les bâtiments, la ville, dans le contexte en fait géographique, faire avec le déjà-là. Donc ça, c'est très important pour en fait respecter les limites physiques de la planète, évidemment, valoriser les ressources locales avant tout, avant de refaire de la production neuve, privilégier la réhabilitation, la rénovation des logements anciens. Et puis pour le neuf, c'est privilégier l'éco-conception, l'utilisation raisonnée des matériaux, le recyclage, etc., la réutilisation des matériaux. Donc on voit bien ce qu'il y a derrière. Et pour lui, ce qui est important, c'est de rechercher absolument le bénéfice de la sobriété et d'aller vers une sobriété heureuse. Donc ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième concept sur la résilience, donc de quoi, qu'est-ce qu'on entend derrière résilience pour les territoires? C'est tout ce qui relève en fait des risques, mais pas seulement, c'est aussi les crises sociales, hein, c'est aussi tout ce qui est lié au climat ou par exemple à ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les crises sanitaires. Et de trouver en fait des moyens pour adapter les territoires et la société à ces mutations, pour atténuer évidemment les impacts et les risques. Donc c'est ça la résilience, c'est devenir résilient, c'est atténuer les risques. C'est pas les éviter, c'est faire avec. Et puis donc réduire notre vulnérabilité, qui passe beaucoup par la formation, la compréhension par les citoyens de leurs impacts. Et puis ce qui est aussi le maître mot, hein, par rapport à la résilience, c'est la vision systémique. C'est de vraiment de prendre en fait la question dans son ensemble, dans son entièreté, et de vraiment de faire participer les citoyens activement en fait pour qu'il y ait une bonne compréhension en fait des phénomènes. Alors Magali Regezza a souligné le fait que la résilience était évidemment des options techniques, je me dépêche, hein, économiques, mais surtout politiques. Et son message fort, et ça je pense que c'est très très important, je pense, parce que ça a fait bouger pas mal de lignes, c'est d'essayer de revoir en fait notre conception de la projection de l'avenir dans nos modélisations, nous techniciens, mais aussi politiques. C'est de dire qu'il n'y a pas de trajectoire linéaire. Et ça, on a trop tendance à croire qu'en fait, on peut faire des trajectoires linéaires, on peut faire des modélisations en fait continues, alors qu'en fait, le retour d'expérience sur ces questions de résilience, c'est d'observer qu'en fait, on est face à des boucles rétroactives, à des incertitudes, avec des retours, des bifurcations, des chemins indécis, aussi. Et donc ça, c'est très important pour elle, hein, qu'on puisse en fait s'inscrire dans cette incertitude, hein, pour pouvoir justement être dans de la flexibilité, de l'adaptation qu'il y a derrière la résilience. Donc je vais vite sur l'inclusion. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Maître mot pour la ministre, c'est la question de la mixité, très importante pour elle et pour nous évidemment. Renforcer cette mixité sociale et fonctionnaire pour éviter les fractures et les ségrégations sociales et territoriales. Ça, c'est très important et ça, on travaille avec le ministère de la Cohésion des Territoires, bien entendu, sur ce sujet, avec aussi favoriser le pouvoir d'agir des citoyens. Il n'y a pas d'inclusion sans le pouvoir d'agir des citoyens, sans la cohésion territoriale, j'en ai parlé, et puis pour prévenir l'exclusion en protégeant les libertés individuelles. Donc Judith Ferrando, qui est sociologue, nous a dit qu'il fallait changer notre imaginaire, ne pas tout attendre de l'État, et au contraire, repositionner le citoyen au centre de l'échiquier, et puis que l'État mette à disposition de nouveaux espaces, nouveaux lieux de débat. Et surtout, c'était ça son enseignement principal, c'était partager la connaissance, surtout donner les moyens aux citoyens de comprendre en fait les phénomènes, ce face à quoi nous nous trouvons, pour pouvoir élaborer ensemble. Donc la connaissance avant des propositions, et on voit bien derrière la Convention citoyenne, il y a eu tout un effort de formation, et donc l'inclusion passe par la formation et la connaissance et l'éducation. Dernier point, donc production, j'essaie d'aller vite, mais c'est tellement riche. Donc production, donc productivité, elle n'est pas qu'économique. J'insisterai là-dessus, c'est qu'on essaye de voir comment, en fait, derrière cette question de production, il y a avant tout la question du progrès humain, culturel, social, éthique et aussi économique, mais aussi la création de valeur, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, pour investir de nouveaux modèles économiques plus sobres, justement, puisque ça, c'est très, très lié. Hein, la question de production, c'est très lié. Et ça peut être antinomique. J'en parlerai peut-être un peu après. Donc avec la sobriété, donc trouver des nouveaux modèles plus sobres, mais quand même créateurs d'emplois, donc basés certainement sur de nouveaux paradigmes, hein, comme on dit dans le jargon contemporain, basés sur la fonctionnalité, le circulaire, le solidaire, le social, voilà. Et donc Pierre Vels, qu'est-ce qu'il a pour lui, en fait, ce qui est très important, il dit qu'en fait, il n'y a pas que lui qui le dit, c'est qu'en fait, on a perdu le sens, en fait, l'objectif premier, en fait, de l'économie, qui doit être absolument humano-centré, qui doit être au service de l'homme, hein, et non pas contre l'homme. Et pour lui, il faut vraiment qu'on réoriente les priorités productives sur la santé, l'éducation, l'alimentation. Et il cite un exemple très important par rapport à ce qu'on est en train de connaître, justement, sur les questions d'aménagement du territoire avec la crise sanitaire. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. On a tous les cadres de la santé qui sont en zone centre en Île-de-France, et toutes les infirmières, aides-soignants, etc., les infirmiers qui sont en grande couronne, et ça pose des problèmes dans la gestion de la crise. Donc on voit bien que c'est très très lié, tout ça est très très lié avec l'aménagement du territoire.
Magali, vous nous avez parlé tout à l'heure de démonstrateurs. Est-ce que ça veut dire que des territoires démonstrateurs sont venus présenter leurs projets ?
Alors oui, c'est aussi ça l'objectif, hein, de la ministre, c'est de dire qu'il faut qu'on valorise en fait ce qui est déjà fait. C'est très important. On ne repart pas de rien, surtout pas. Hein. Enfin, donc on est vraiment là pour en fait aider et donner, massifier en fait, hein, mettre en réseau les démonstrateurs qui existent. Donc il faut les donner à voir, il faut en tirer les enseignements de ces démonstrateurs. Donc quelques exemples. On a essayé de montrer comment on pouvait mettre en tension sobriété et production, puisqu'on voit bien que ça peut paraître contradictoire, mais il y a quand même des territoires qui ont réussi à relever le challenge, notamment. Donc on avait invité l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée qui au travers de l'écoquartier de Montévrin a réussi à faire un projet qui consomme très peu de, enfin qui rentre dans cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols, alors qu'on est sur un territoire très tendu en Île-de-France. Il y a Euralance aussi qui était venu présenter son projet absolument remarquable, hein, qui est un vrai projet de transition depuis le modèle des cités minières, hein, donc vers un modèle de plus très écologique. Et puis aussi un territoire de plus petite échelle, un Pérignia S-Allier qui est dans le Puy-de-Dôme, qui nous a montré, qui fait partie en fait de la démarche La Preuve par 7 piloté par Patrick Bouchain, et qui nous a montré comment, avec une valorisation des ressources locales, on pouvait faire de la revitalisation de ces centres-bourgs de petite dimension. Alors, par ailleurs, donc premier binôme, la sobriété des productions, on a aussi fait un binôme sur résilience-inclusion, où là, on est plutôt sur la synergie et non pas sur la mise en tension. On voit bien que l'un alimente l'autre, hein, tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc là, il y avait La Réunion, il y avait Figeac, l'île de La Réunion, il y avait Figeac et Trèbes qui sont venus tous les trois présenter leur projet qui allie en fait ces deux dimensions. Et pour les deux derniers, avec l'appui de l'établissement public foncier Occitanie. Les établissements publics fonciers sont des opérateurs du ministère qui ont une grande des missions absolument fondamentales, hein, sur ces questions d'aménagement durable des territoires, puisqu'ils sont sur le temps long et sur du portage, en fait. Hein, ils préservent l'avenir, on va dire, donc grâce à leur mission. Et puis, je voudrais citer sur ce binôme résilience-inclusion, l'expérience tout à fait remarquable de la ville de Villiers-le-Bel, hein, qui s'est engagée dans une démarche d'expérimentation d'aménagement urbain basée sur le genre. Donc c'était hier la journée des droits de la femme, mais on peut rester encore sur ce sujet. Et donc ils ont fait une démarche d'expérimentation sur la question de la place de la femme, notamment dans l'espace urbain, pour donc assurer le droit à la ville pour toutes, en l'occurrence, mais c'est plus large, hein, c'est pour l'ensemble des citoyens, et c'est vraiment remarquable. Je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Voilà, et puis bien entendu, on a eu la cérémonie des écoquartiers, donc je ne les citerai pas tous parce qu'ils étaient 22 lauréats en étape 2 qui correspond aux écoquartiers en chantier. Florian Berco, qui est maire de Laval, est venu se présenter en tant que nouveau président de la Commission nationale des écoquartiers. Et puis il a présenté son écoquartier Ferrier à Laval. Et puis on a eu cinq autres communes, hein, ou villes, hein, qui sont venues présenter leur écoquartier en étape 3, ces écoquartiers chantier livré. Donc je vous renvoie là aussi au site dont je citerai le lien en fin d'émission pour aller voir plus en profondeur chacun de ces projets qui sont évidemment très bien puisqu'ils ont été lauréats des écoquartiers. Donc il y avait Le Havre sur un projet en entrée de ville, il y avait Toulon sur un projet qui allie écoquartier et politique de la ville, et puis trois projets qui étaient sur les questions de réhabilitation, de recyclage des friches, donc Miramas, à Haguenau et à Cornimont. Voilà, à Guenau dans le Bas-Rhin, Miramas dans les Bouches-du-Rhône et Cornimont dans les Vosges.
Merci Magali. Je vais à nouveau donner la parole à Jean-Baptiste Butlaine. Emmanuel Wargon a évidemment annoncé en clôture une feuille de route pour les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes ?
Oui, bien sûr. Alors après la phase d'idéation et la phase de démonstration dont nous a parlé Magali, on rentre dans la phase d'accélération. La ministre a effectivement annoncé également une feuille de route pour les prochains mois, que je pourrais résumer à travers trois démarches. Là, il y a tout d'abord une démarche politique, une démarche d'accompagnement et ensuite une démarche d'innovation. Alors d'un point de vue politique, Magali l'a très bien présenté, on voit qu'on est sur à la fois de la synergie, à la fois de la mise en tension, on embrasse et on intègre des défis pour l'aménagement durable qui sont à la fois fondamentaux et à la fois complexes à s'approprier. Et donc du coup, la ministre souhaite désormais pouvoir refonder un nouveau pacte de l'aménagement durable. Donc de ce point de vue-là, elle a co-élaboré avec le président de France Ville Durable un manifeste de l'aménagement durable qui a été d'ailleurs délibéré dans le conseil d'administration de France Ville Durable et qui est mis en débat pour finalement tenter de synthétiser ces grands principes de l'aménagement durable. Par ailleurs, la ministre étant persuadée qu'il faut aussi travailler sur la cellule logement, comme elle le dit, avait commandé un rapport au préfet Lema, lequel a rendu ses conclusions, dont l'une consiste à élaborer un nouveau référentiel du logement de qualité. Et à ce titre, du coup, la ministre a lancé une task force animée par M. Leclerc et M. Girometti pour essayer d'élaborer ce référentiel du logement de qualité. Enfin, toujours sur une démarche politique, la ministre est persuadée qu'il faut remettre l'humain au cœur de l'urbain. Et donc, de ce point de vue-là, elle a souhaité pouvoir organiser des conférences de consensus avec les citoyens, avec les usagers de la ville, pour effectivement partir des dissensus sur nos aspirations quant à notre façon d'habiter la France de demain, et voir comment est-ce qu'on peut en tirer des grandes lignes de force, des grandes lignes de consensus. Voilà. Sur l'aspect de l'accompagnement, des démarches d'accompagnement des territoires, la ministre est persuadée effectivement qu'il y a déjà beaucoup de choses très, très vertueuses et très démonstratrices qui sont à mettre en valeur sur les territoires. Hein. Magali a cité quelques exemples. Pour accélérer le mouvement, elle se propose du coup de bien mettre en valeur tout ce qui se fait sur les territoires en capitalisant les démonstrateurs sur le portail France Ville Durable. Elle souhaite également pouvoir mettre à disposition tous les outils, toutes les démarches, tous les leviers portés par l'État ou d'autres acteurs en faveur des territoires qui souhaitent s'investir dans l'aménagement durable. Donc à ce titre, on peut citer notamment les ateliers des territoires, pour lesquels il y a eu un nouveau appel à manifestation d'intérêt il y a quelques semaines, hein, le 26 janvier dernier. On peut aussi citer la campagne de labellisation écoquartier numéro 9, qui, après les lauréats dont Magali a parlé, va conduire à de nouvelles désignations à la fin de l'année. Et puis on peut aussi parler de la structuration de réseaux apprenants, Magali en parlera peut-être, qui permettent effectivement de mettre en relation des territoires qui ont une convergence de vues, une convergence de destin, en veillant à les accompagner avec l'ingénierie locale, comme la Fédération nationale des agences d'Urba ou les CAUE, par exemple. Voilà. Enfin, s'agissant du troisième axe de la démarche, c'est celui de l'innovation, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est devant l'obligation aujourd'hui de trouver des solutions nouvelles pour concevoir, fabriquer, gérer la ville face à ces nouveaux défis dont Magali a parlé. Et à ce titre, a été annoncée par le Premier ministre une nouvelle phase du programme d'investissement de la ville, le PIA, qui est le PIA numéro 4, avec notamment un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour accompagner des laboratoires d'innovation urbaine. Donc ça, c'est désormais bien acté, hein, dans la stratégie du gouvernement. Et il y aura du coup plusieurs centaines de millions d'euros qui seront mis sur la table pour accompagner l'innovation urbaine répondant aux défis de la résilience, de la sobriété, de l'inclusion et bien sûr de la productivité, qui sont les quatre défis qui ont jalonné, si je puis dire, la journée du 9 février dernier.
On va continuer à se projeter, hein, puisqu'on parle de la ville de demain. Quels sont les prochains grands rendez-vous ? Quelles implications également pour les collectivités qui nous écoutent ? Et puis, qu'est-ce que ce plan va leur apporter ?
Alors, donc je reviens un peu sur ce qui a été dit, mais toujours sur ces trois phases. Donc, idéation, comme le disait Jean-Baptiste, on poursuit la démarche. La ministre souhaite enrichir le manifeste, hein, comme ça a été dit, avec l'organisation de cette fameuse conférence citoyenne de consensus. Donc, on est en train de préparer. Donc là, c'est pas directement lié aux collectivités, mais on pense peut-être qu'elles auront peut-être des choses à apporter dans ce cadre-là. On est en train de l'organiser, donc tout ça doit être conduit avant l'été. En termes de démonstration, là par contre, j'ai une date précise. Le 19 mai, France Ville Durable doit organiser sa première université, qui doit être un rendez-vous annuel qui va se répéter chaque année, et donc dont le titre est Ville Durable en Action, Ville Durable au pluriel, hein, donc le nom a été trouvé dernièrement. Donc le 19 mai, ça sera à Dunkerque pour cette première manifestation. L'idée, c'est donc d'avoir cette rencontre pour justement donner à voir en fait, hein, ces démonstrateurs, et aussi fédérer les membres de l'association France Ville Durable autour de ces quatre collèges dont a parlé Jean-Baptiste. Le 19 mai, ça sera l'occasion de donner à voir une centaine de démonstrateurs qu'on va identifier, qu'on est en train d'identifier actuellement Donc là, c'est aussi un appel en direction des collectivités, si elles ont dans leur valise, dans leur mallette, en fait, des prix déjà des lauréats qui sur leur territoire qui ont reçu en fait des prix ou des qui ont été sélectionnés à divers titres, hein, mais toujours évidemment autour des questions de durabilité, qu'elles nous fassent remonter en fait leur démonstrateur, puisque on va sélectionner une centaine de démonstrateurs à partir desquels on aura un podium d'une dizaine de projets pépites qui seront donc mis à l'honneur le 19 mai à Dunkerque avec la ministre très certainement. Et donc le 19 mai, on attend une forte mobilisation, une implication aussi des collectivités, notamment des associations d'élus à cette occasion. Donc voilà, donc déjà une première attente. Et puis sur l'accélération, donc je ferai un bref passage peut-être avant de finir sur le plus long terme et ce grand chantier en fait où on attend une mobilisation quand même essentielle des collectivités et des territoires, parce que c'est au service de, c'est quand même la cible première, hein. C'est pas pour nous, c'est vraiment pour les territoires qu'on travaille. Donc juste un passage pour l'international pour dire que, puisqu'on parle de calendrier, que dans l'ordre, on a un sommet Afrique-France qui a été reporté, qui est organisé donc à cause du Covid, qui est organisé en juillet à Montpellier, sur la ville durable. On a le congrès de l'UICN aussi qui se tient en septembre cette année, qui a été reporté aussi avec une motion sur la nature en ville, et puis l'exposition universelle qui se prépare à Dubaï cette année en octobre. Donc je finirai donc sur le plus long terme et sur un chantier qui nous anime dès aujourd'hui et un chantier pour lequel on attend une implication des collectivités pour être au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Donc l'objectif, je le répète, c'est une massification, hein, pour aller vers la transition vraiment effective et efficace. Donc lors de ce premier trimestre, donc on va réussir à mettre en place, en œuvre, les dispositifs annoncés par la ministre pour aider les territoires à relever ces quatre défis, avec le Vademécum. Donc là, on attend aussi de la part des collectivités, et on passera par nos réseaux, évidemment, pour l'organiser, un retour sur ce Vademécum pour voir, pour l'adapter au mieux en termes d'ergonomie, en termes de contenu, pour que ça réponde vraiment à leurs attentes. L'objectif est vraiment d'avoir une sorte de banque ou de mallette, hein, ou de valise, enfin de valise à la Mary Poppins, où en fait où les collectivités viendraient piocher en fait les outils qui vont bien. Donc il y a une description à chaque fois de l'outil qui et une diversité, une présentation d'une grande diversité en fait d'outils, et ça c'est très important. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus avec Jean-Baptiste, c'est que on souhaite vraiment montrer que aucune étape du projet n'est oubliée. On est vraiment bien depuis la recherche, la planification, jusqu'à la gestion de la ville, son recyclage. Donc on adresse l'ensemble des étapes du projet. Ça, c'est important de le répéter, parce que c'est quand même ça qui structure notre démarche. Et puis toutes les échelles aussi, ça, c'est très important de le noter. On n'est pas que sur le fait métropolitain, comme on a pu l'être à un moment donné, en fait, hein, dans l'action du ministère. Là, vraiment, on est depuis la toute petite ville, hein, jusqu'au grand, très grand territoire. On est sur des problématiques de façade maritime, avec les questions de gestion du trait de côte, par exemple, l'érosion côtière, jusqu'à des revitalisations de centre-bourg, du recyclage à la parcelle sur des choses excessivement fines. Donc, voilà. Donc, l'objectif est en même temps, l'ampleur de la tâche est grande, puisqu'on veut vraiment adresser l'ensemble des échelles. Alors, je finirai par deux points. Un point sur le réseau apprenant. Donc, on va lancer la préfiguration d'un réseau apprenant sur trois régions pilotes, donc sur lesquelles qu'on est en cours de sélection. Qui ne sont pas encore complètement validés, parce qu'évidemment, il faut qu'on ait l'accord des collectivités concernées pour lancer ces préfigurations sur trois régions pilotes. Il y en aura une sans suspense qui sera dans l'outre-mer, ça c'est certain, et puis deux autres en métropole. Donc l'idée dans ce réseau apprenant, c'est de ne surtout pas recréer un réseau supplémentaire. Comme on l'a dit avec Jean-Baptiste, c'est vraiment, on est là pour, dans ce dispositif, au contraire, pour essayer de simplifier au maximum les choses, de coordonner ce foisonnement, de le structurer autour de ces quatre défis, pour redonner un sens simple et puis donner des orientations faciles pour la massification et la montée en puissance du dispositif. Et donc, dans ce réseau apprenant, l'idée, c'est de fédérer et de faire coopérer les réseaux institués, les collectifs qui sont en émergence pour en fait faire du lien, mutualiser les forces, identifier les pépites, faire du parangonnage, comme disait Jean-Baptiste, avec France Ville Durable. Donc, évidemment que France Ville Durable va être de la partie. Donc, on va s'appuyer sur trois grands partenaires. France Ville Durable, la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme et puis la Fédération Nationale des CAUE, puisqu'il n'y a pas des agences d'urbanisme non plus partout. Donc, par contre, il y a des CAUE partout. Et puis, chacun adresse aussi des cibles et des territoires un peu différents. Donc l'idée de ce réseau en préfiguration, c'est à la fois d'expérimenter une plateforme d'échange de type réseau social ou réseau collaboratif pour... maintenant, on ne peut pas faire sans, en fait, le numérique. Hein, et on le voit bien, en plus, avec la crise sanitaire, que c'est quand même très utile. Donc c'est recréer du lien. Donc ça, c'est l'État qui pourra structurer, en fait, ce réseau numérique avec l'aide de France Ville Durable et le fameux portail qui pourra servir de centre de ressources. Aussi, sur la base des ateliers des territoires à la carte, grâce à ce dispositif, pouvoir, sur les territoires, faire une analyse des besoins des territoires pour identifier quelle est la question, quels sont les besoins pour accélérer en fait cette transition écologique. Donc l'idée, c'est vraiment bien d'appuyer en fait les travaux des territoires et cet engagement, cette transition, ces mutations. Donc faire une analyse des besoins grâce aux ateliers des territoires à la carte pour pouvoir ensuite aller vers des formations, une offre de formation et aussi organiser des journées d'études sur ces territoires ou de mutualisation entre territoires. Donc vous voyez, on est là, l'État étant avec des réseaux institués, des agences d'Urba, des CAUE, hein, des organismes qui sont déjà des institutions. On est là pour faciliter, en fait, hein, pour et organiser, en fait, mettre à disposition de l'ingénierie, nos outils, notre force de frappe, en fait, au niveau national. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment bien d'aider les territoires à s'engager, en fait, dans ces quatre défis. Et puis aussi d'aller vers le grand public, hein, grâce notamment aux CAUE avec lesquels on va travailler. Donc du coup, pour organiser des expositions ou des démarches de sensibilisation, comme par exemple, on est aussi en train d'essayer de le concevoir l'organisation, l'association Arc en Rêve à Bordeaux, qui est aussi un lieu d'exposition, hein, des questions, des grands débats sur la vie et les territoires. Donc c'est aussi pour donner à voir, en fait, toutes ces démarches et cette réflexion. Et je finirai donc sur un point, c'est sur l'accompagnement. Ouais, voilà, je finis, mais c'est le dernier, deux mots. C'est vraiment l'accompagnement de l'essor de France Ville Durable. Et donc vous me posiez la question, en fait, hein, comment les collectivités peuvent participer. Et là vraiment, c'est une association à laquelle elles peuvent adhérer. Elles sont attendues puisqu'il y a un collège collectivité. Et donc, c'est vraiment, on appuie vraiment cet essor comme relais, en fait, hein, de l'action nationale vers les territoires, de l'action décentralisée avec la mise en place par France Ville Durable de formations notamment décentralisées. Et donc, c'est une association à laquelle on les encourage à adhérer.
Voilà. Merci Magali. Allez, on passe aux questions d'auditeurs tout de suite.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Avec Michel Félep, évidemment, il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions.
Oui, Johanna. Donc, on va d'abord remercier Jean-Pierre qui a partagé sur le fil des liens vers la page Habiter la France de demain du site du ministère de l'écologie et des liens vers la page aussi sur le palmarès des lauréats labellisés Écoquartier en 2020. Et donc, on va prendre une question de Grégoire qui nous demande quel est le lien avec le plan de relance. Est-ce que le plan de relance peut contribuer à l'accélération dont vous avez parlé ?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Bon, évidemment, le plan de relance est en parfaite cohérence avec les orientations du gouvernement. Il s'agit évidemment de relancer la construction pour répondre aux besoins de logement et d'accueil d'activités économiques. Mais qui dit relance de la construction ne veut pas dire construire n'importe où, n'importe comment. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien que les mesures qui ont été inscrites dans le plan de relance par le gouvernement sont en faveur à la fois de la rénovation énergétique, à la fois de la résilience des territoires et enfin en faveur, évidemment, de la sobriété foncière. Donc, on pourrait les citer ou les développer, mais je pense qu'on n'a malheureusement pas le temps. Je me contenterai de rappeler qu'il y a le fonds Friche pour recycler le foncier, l'aide à la relance de la construction durable pour financer des aménités urbaines liées à des constructions denses. Il y a le programme d'investissement d'avenir, on en a parlé pour l'innovation. Et enfin, on accompagne aussi des contrats entre État et collectivités, notamment les projets partenariaux d'aménagement, en particulier sur les secteurs où la résilience doit être confortée, comme le trait de côte. Voilà, donc ce sont quelques exemples pour dire que, bien évidemment, l'ensemble de ces orientations du gouvernement sont parfaitement cohérentes.
Et j'en profite pour profiter qu'il y a évidemment un podcast à retrouver d'un ancien mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement qui concerne ces dispositifs. Notamment, on avait parlé du fonds Friche. Michel, une dernière question ?
Alors, une dernière question de Virginie qui nous demande comment on peut candidater à ces démarches que vous avez évoquées, les ateliers des territoires, les écoquartiers, le PIA ?
Alors, il y a trois démarches qui ont été citées. Hein. S'agissant des ateliers des territoires et des écoquartiers, le plus simple est de se rapprocher des services déconcentrés de l'État, et en particulier les DDT, à travers le nouveau conseil au territoire notamment, puisque ce sont nos premiers ambassadeurs des démarches ateliers des territoires et écoquartiers. Donc s'agissant des ateliers des territoires, on peut mettre à disposition des collectivités candidates, des groupements pluridisciplinaires de concepteurs urbanistes, de sociologues, de naturalistes, pour les aider à faire émerger un projet de territoire. On a présélectionné quatre grandes thématiques dans ces nouveaux ateliers des territoires flash, que sont la réparation de la ville, tout ce qui est îlot dégradé par exemple, la revitalisation de la ville avec les petites villes de demain, les actions cœur de ville et tout ce qui est intégration justement de la dimension productive de la ville, mais également la transition écologique, notamment à travers la sobriété foncière et énergétique, et enfin tout ce qui est accompagnement des démarches citoyennes. Voilà. Donc ça, le plus simple, effectivement, est d'aller voir la DDT en présentant le projet et en voyant si ça peut rentrer dans le cadre d'un accompagnement, on le rappelle, gratuit, d'un groupement pluridisciplinaire de grands concepteurs urbanistes, paysagistes et architectes. S'agissant des écoquartiers, bon, c'est comme chaque année, il y aura une circulaire qui détaillera les différents jalons avec le dépôt de dossiers de candidature écoquartier selon les 20 engagements sur la plateforme en ligne. S'agissant enfin du PIA, c'est un peu différent puisque c'est une démarche qui est pilotée directement par les services du Premier ministre. L'opérateur du PIA en faveur des laboratoires urbains sera la Banque des territoires. Il devrait y avoir sous quelques semaines l'annonce du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt pour ces démonstrateurs de la ville en faveur des quatre défis dont nous avons parlé. Mais on le cite pour le plaisir, du coup, la sobriété, la résilience, l'inclusion et la production des villes de demain.
Voilà pour les quatre mots de conclusion. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour ce numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Jean-Baptiste Butlen, je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable DHUP DGLN. Magali Pinon-Lecomte, vous êtes l'adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable DHUP DGLN. Et Michel Félep, chargé de mission animation territoriale DHUP DGLN. Merci à tous les trois. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Les numéros sont en attendant à retrouver en podcast sur Radio Territoria, sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Très bonne journée à vous.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.